Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors c'est pas encore le Black Friday, mais ce soir vous aurez droit à un lot de présidents américains dans RTL soir. L'actuel Donald Trump et le futur Joe Biden. On va vous raconter bien sûr où en sont ces deux-là. Mais surtout ce soir il y a Barack Obama qui sort ses mémoires, Une Terre Promise. Ça sort dans le monde entier aujourd'hui. Et comme il en a beaucoup de mémoires, ce premier tome fait plus de 800 pages. On en parlera avec Sophie de Closet. C'est la patronne des éditions Fayard et elle va faire des jaloux et des jalouses puisqu'elle a passé son dimanche avec le 44e président des États-Unis à Washington. Elle nous racontera tout ça, coulisses comprises, à partir de 18h35, juste après Philippe Cavrivière. Philippe qui chante beaucoup moins bien que Barack. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres de l'actualité de ce mardi 17 novembre.
Et à la une ce soir, le déconfinement qui se précise. Emmanuel Macron prendra la parole et c'est une info RTL la semaine prochaine. Le chef de l'État qui annonce ce soir le déblocage de 400 millions d'euros pour aider le sport, toujours à l'arrêt. Il espère une reprise pour les moins de 18 ans dès le mois de décembre. Dans ce journal également, des entreprises françaises sauvées par Amazon. Oui, oui, ça existe. Les assureurs qui n'assure plus,
ça aussi.
Ça existe. Et puis The Crown, la série qui provoque un tollé, vous le verrez, au Royaume-Uni. Les courses, le Quintet Plus se courait aujourd'hui à Saint-Cloud, il fallait jouer le 4, l'As, le 9, le 3 et le 6.
La météo, bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas, bonsoir
et
à tous.
Vous venez plein de petites bonnes nouvelles pour demain.
Exactement, bah oui, au moins, il faut bien qu'il y en ait un peu quand même, avec effectivement demain, temps sec et ensoleillé.
Vous êtes une bonne nouvelle à vous tous.
Je sais pas. Bon, écoutez d'abord ce que j'ai à dire, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'on aura peut-être quelques brume, brouillard demain matin, mais ça durera pas très longtemps. Et c'est vrai que dès la mi-journée, le soleil s'imposera partout. Alors c'est vrai qu'en fin d'après-midi arrivera déjà une nouvelle perturbation sur la Bretagne avec quelques pluies et un petit peu de vent. Mais retenez surtout que dans toutes les autres régions, donc il y aura du soleil et des températures en hausse. Mmh. Alors un peu fraîche le matin parce que le ciel sera dégagé en cours de nuit, pas très loin des gelées dans le nord-est. Mais l'après-midi, écoutez bien, 12 à 15 degrés dans le nord-est, mais 15 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 18 à 21 degrés dans le sud.
C'est chaud, merci
oui,
beaucoup.
RTL. Soir.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.
Ça, c'était il y a 3 semaines, quasiment jour pour jour. Emmanuel Macron annonçait le reconfinement. Et bien, un mois plus tard, la semaine prochaine, c'est lui qui annoncera le déconfinement. Vincent Derosier, le chef de l'État, va en effet, et c'est une info RTL, s'adresser aux Français, donc la semaine prochaine.
Oui, une intervention à la radio et à la télé en milieu de semaine prochaine, cruciale à un mois de Noël et au vu des attentes des Français. Emmanuel Macron va exposer sa stratégie de sortie progressive du confinement. Rien à voir avec le déconfinement du printemps dernier. Il faudra, selon toute vraisemblance, en passer par un nouveau couvre-feu. Le président dira aussi aux Français comment ils vont pouvoir fêter Noël en famille. On ne privera pas les gens de fêtes de fin d'année, confie un proche. En revanche, Emmanuel Macron appellera bien à la responsabilité de chacun. Pour l'ouverture des petits commerces ou des lieux de culte, le président veut que la règle soit la même. Les gens ne comprendraient pas qu'on autorise les uns et pas les autres, explique son entourage. Et concernant les commerces, lesquels pourront ouvrir, à quelle date, quid des horaires, sur tous ces points, le chef de l'État attendra les derniers chiffres de l'épidémie pour trancher, juste avant sa prise de parole. Et comme la dernière fois, après son intervention, c'est le Premier ministre qui donnera les détails, les grands principes avec Emmanuel Macron, le pratico-pratique avec Jean Castex.
Vincent Derosier,
la répartition des rôles qui est claire.
Politique de RTL, effectivement. Emmanuel Macron qui réunissait aujourd'hui, ça c'était lui, le monde du sport, toujours à l'arrêt, une réunion par visioconférence. Il a plaidé pour une reprise dès le mois de décembre pour les mineurs qui jouent ou pratiquent en club. Il annonce par ailleurs le déblocage de 400 millions d'euros. Trop peu, dit ce soir Jean-Pierre Ciotta, le président de la Fédération française de basket.
Quand il n'y a rien, on n'est pas content. Quand on a quelque chose, on considère que c'est jamais assez. Je pense que l'impact des gars sur le sport, ça dépasse le milliard d'euros. Donc l'aide, elle devrait être au milliard d'euros. On a obtenu 400 millions d'euros. Donc c'est quand même inédit. Après, c'est à nous de trouver des solutions pour soutenir nos clubs. on le sait, on a fait une première enquête avec le comité olympique. On s'aperçoit qu'il y a des pertes déjà sur 44 000 clubs. C'est près de 350 millions d'euros de pertes. Donc si on fait une extrapolation, on n'est pas loin du milliard d'euros. Moi, je sais que les clubs aussi, certains ont fait des économies sur quelques dépenses. Donc, il faut voir réellement l'impact. Aujourd'hui, oui, c'est pas assez, mais c'est quand même 400 millions d'euros qui sont sur la table. Voilà, il faut faire avec. Et puis, on verra comment on peut continuer le combat dans les semaines à venir. Voilà.
Le président de la Fédération de basket, joint par Nicolas Georgerot. Quant aux spectateurs dans les stades, Amandine, ça ne sera pas avant le début de l'année prochaine, pas avant janvier. La jauge pourra, mais là encore, c'est une piste, restons prudents. La jauge devrait pouvoir être adaptée selon la taille des stades.
Et puis, concernant la réouverture des commerces, on l'a dit, rien de tranché à ce stade, toujours pas de date, il va falloir attendre la semaine prochaine pour être vraiment fixé. En attendant, plusieurs élus et personnalités ont lancé une tribune pour un Noël sans Amazon. 4913 signatures ce soir. Un Amazon bashing qui fait bondir certaines PME, comme ce cristallier des Alpes-Maritimes où vous vous êtes rendu, Michael Lefebvre.
Oui, Valérie Klein est créateur et gérante d'une entreprise qui fabrique des objets en cristal. Sa boutique de Valoris étant fermée au public pendant le confinement, son chiffre d'affaires dépend donc uniquement en ce moment de la vente en ligne, principalement à travers Amazon.
Aujourd'hui, on a 8 commandes. C'est ce qui nous permet surtout de survivre et de continuer à travailler, à préserver les emplois et notre entreprise. En tout et pour tout, nous sommes 7 personnes.
L'an dernier, 20% de son chiffre d'affaires a été réalisé via le site américain. Cette année, il atteint les 50%, Amazon prenant uniquement 14% de commission sur la vente de chaque article.
C'est vraiment un deal gagnant-gagnant, puisque sans Amazon, à l'heure actuelle, j'aurais 0 client aux États-Unis, j'aurais 0 client en Italie, en Allemagne, etc.
Un boycott massif de la plateforme de vente en ligne serait donc une catastrophe pour cet artisan du Made in France.
S'il y avait un boycott d'Amazon, je pense qu'on ne tiendrait pas le coup et on serait obligé de mettre la clé sous la porte.
Comme Valérie Klein, ils sont plus de 10 000 commerçants, artisans ou vendeurs indépendants français à se servir d'Amazon Marketplace comme support de vente en ligne pour leurs produits.
À Valoris, le reportage de Michael Lefebvre. Les entreprises pour qui, en cette fin d'année, c'est souvent la double peine.
Et non seulement elles voient leur activité tourner au ralenti, mais en plus, les prix de leurs contrats d'assurance flambent jusqu'à plus 30%. Le pire, Armelle Lévy, c'est que les assureurs couvrent de moins en moins de choses.
Oui, en ce moment, c'est le grand toilettage dans les contrats. Avant, les assureurs ne parlaient pas des risques de pandémie ou parfois c'était juste une clause dans un contrat. Sauf que certains assureurs, assignés en justice, ont été forcés d'indemniser des entreprises pour leurs pertes d'exploitation. Ils ne veulent pas revivre ce scénario. Donc aujourd'hui, les assureurs blindent leurs nouveaux contrats. Les entreprises ne sont plus couvertes ou très peu pour les pertes liées aux épidémies. Elles ne sont plus couvertes non plus pour les virus, cette fois informatiques. En cette période de confinement, les cyberattaques augmentent de façon exponentielle, le salarié se connecte à distance, les serveurs ne sont pas forcément fiables ou sécurisés, les assureurs ne veulent plus couvrir ce risque. Quant aux petits commerces, les assureurs réduisent aussi leurs garanties, grèves, émeutes, mouvements populaires. Le mouvement des Gilets jaunes est passé par là. Les dirigeants d'entreprises, eux, ont le sentiment que leur protection, que leur garantie s'évapore. Ils disent que jamais le marché de l'assurance des entreprises n'avait connu un retournement aussi violent.
Armelle Lévy, une crise sanitaire qui inquiète ce soir la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Selon Dominique Simoneau, les protocoles mis en place en prison et dans les centres de rétention sont absolument insuffisants. Elle sera notre invitée dans quelques minutes à 18h15 en direct.
Et puis à Joinville-le-Pont, après cette gigantesque fête clandestine le week-end dernier, 2 personnes sont ce soir mises en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit du propriétaire des lieux et de celui qui assurait la sécurité ce jour-là. Au procès de Jonathan Daval, pas de confrontation entre les parents d'Alexia et l'accusé. L'audience a pris du retard. Cette confrontation aura lieu sans doute demain. Mais la journée a toutefois été très difficile, quasi insurmontable pour la famille, Samuel Goldschmidt.
Cet exposé précis et détaillé de l'autopsie rappelle forcément le calvaire qu'a dû être la fin d'Alexia, un moment insupportable effectivement pour sa maman.
Sitôt qu'on parle de ma fille dans des termes de légiste, de massacre qu'elle a subi, je ne peux pas écouter, c'est de ma fille qu'on parle. On parle d'un corps déchiqueté, c'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle, c'est pas d'un bout de viande. On le sait qu'elle a été massacrée. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu subir en horreur.
Pendant toute cette séquence, Jonathan Daval s'est tassé sur sa chaise jusqu'à disparaître complètement derrière la rambarde en bois de son box. Une attitude qui attise la colère de son beau-frère Grégory Gay.
Je voudrais aussi rétablir un petit élément que j'ai vu paraître hier dans les médias. C'est qu'il était mentionné qu'il pleurait. En aucun cas il a versé une seule larme hier et aujourd'hui. Il se cache, il n'affronte pas nos regards. Il est dans une absence totale d'émotion vis-à-vis de tout ce qui est passé devant lui, y compris les photos d'Alexia brûlées. Et en aucun cas, il n'a pleuré.
Cet après-midi, il a ressurgi pour écouter attentivement les longues suites d'expertises médicales versées au dossier.
Samuel Goldschmidt au palais de justice de Vesoul pour RTL. On marque une pause dans un instant. La folie The Crown, la saison 4 de cette série sur Netflix, qui met la famille royale d'Angleterre en pétard.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Otto.
18h11, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et on va donc en Grande-Bretagne.
Oui Thomas, je ne sais pas si vous faites partie des fans de la série The Crown.
J'ai vu la première saison, je crois.
C'est tout ?
Oui, je me suis endormi après.
Bon, non, alors là, vous avez complètement tort, il va falloir reprendre. Une série, pour ceux qui ne connaissent pas.
Les trois, oui.
Ah, voilà, et vous êtes fan. Série, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sur la monarchie britannique, la famille royale, la saison 4, super attendue, est sortie dimanche dernier. Elle se concentre sur la période Diana, à partir des années 80. Euphorie, donc, chez les fans, à commencer par nous, avec Louis. Ça grince des dents, en revanche, outre-Manche, Marie Billon.
Et c'est presque un crime de lèse-majesté qu'on dénonce de ce côté de la Manche. C'est la manière dont Elisabeth II est présentée qui a le plus choqué Richard Fitzwilliams, spécialiste de la monarchie.
La reine est présentée comme un être insensible et froid. La mafia inspire plus confiance que la famille royale. Elle est présentée comme une sorte d'alliance maléfique. Ils n'ont rien d'humain. C'est vrai qu'il y a eu de la froideur envers Diana. Harry et Meghan pourraient se retrouver là-dedans, mais beaucoup de choses sont à jeter.
Le seul qui n'est pas défendu dans la presse, c'est le prince Charles et son traitement de la princesse Diana. L'actrice qui joue Lady Di elle-même est saluée par la critique, mais Gillian Anderson, ancienne des X-Files, endossant les épaulettes de la Dame de Fer, en prend pour son grade. Robin Callender-Smith est un autre spécialiste de la monarchie.
Margaret Thatcher se prenant pour un rival de la reine n'a aucun sens. Je suis déçu. Il n'y a pas cette attention donnée aux détails des trois premières saisons.
L'aristocratie elle-même se sent lésée, laissait croire dans le premier épisode que le mari de la reine chasse le faisan en plein mois d'août, c'est insultant. Paraît-il.
Effectivement, Marie Billon à Londres pour RTL.
Disgusting.
Oh, vous faites pas mal. Bon, il y a du foot ce soir aussi, avec France-Suède au Stade de France. Coup d'envoi, ce sera à 20h45 à suivre, bien sûr, sur RTL et sur M6. Pas de gros enjeux, puisque l'équipe de France est qualifiée pour la suite de la Ligue des Nations. Mais c'est le dernier match de l'année pour les Bleus et qui compte bien terminer sur une jolie note après leur succès face au Portugal. C'est l'occasion aussi de voir si Mbappé est bien remis de sa blessure.
Eh bien, nous verrons et nous suivrons sur RTL et sur M6. Merci à Amandine, à tout à l'heure. Avant, elle était journaliste au Canard Enchaîné, mais depuis le mois dernier, elle est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Elle vient d'écrire sa très grande inquiétude à Gérald Darmanin, à Éric Dupond-Moretti et à Olivier Véran. Dominique Simonneau est donc l'invité d'actualité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.